Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com. Au sommaire aujourd'hui, France Télévisions, premier média des Français. Quel défi pour le groupe ? Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. Le groupe de médias DC Compagnie rachète le site Les Éclaireuses. Julien Casqui nous en parlera un peu plus dans son journal. Et puis on terminera par une question. Avez-vous été convaincu par la communication des marques dans le cadre du Black Friday ? C'est la question Hebdo.com de la semaine. Harris Interactive a réalisé un sondage pour Tilder et pour BFM Business. Et pour en parler, nous accueillerons Charlotte Eusen, associée chez Tilder, et Fabrice Pelosi, directeur associé chez Epoca. Voilà le programme. Hebdo.com, ça commence tout de suite. C'est parti.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité média.
Et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CBNews. Bonjour Frédéric.
Bonjour Rebecca.
Et de Julien Casqui, journaliste BFM Business. Bonjour Julien.
Bonjour Rebecca, bonjour à tous.
Et nous accueillons aujourd'hui Stéphane Sidbon-Gomez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des antennes et des programmes à France Télévisions. Merci d'être avec nous.
Merci pour l'invitation.
France Télévisions est aujourd'hui le premier média des Français avec plus de 29% de part d'audience en octobre 2022, avec l'arrivée également de nouveaux marqueurs forts cette année comme l'émission Quelle Époque qu'on adore, Drag Race, un retour de Michel Field que vous venez d'annoncer d'ailleurs sur Twitter cette semaine, et puis Aux Arbres Citoyens qui a été diffusé sur France 2 le 8 novembre dernier, qui donne un coup d'envoi à l'arrivée d'une nouvelle émission chaque lundi en prime time dédiée à la question environnementale à partir de 2023 sur France 5. Ça fait de la nouveauté tout ça, Stéphane Sidbon-Gomez?
Ça fait de la nouveauté et puis ça nous fait pas mal de fierté. Là, on termine l'année. C'est la première fois depuis, je pense, une dizaine d'années, voire peut-être plus longtemps, que nos trois grandes chaînes, France 2, France 3, France 5, progressent en même temps. Avant, on progressait tout le temps en prenant un peu aux voisins. Donc là, on a vraiment on a une belle performance de ce point de vue-là. Et puis notre plateforme numérique, vous savez, comme tout le monde, notre gros défi, c'est comment on va réussir à se digitaliser. On fait des records incroyables. Il y avait 21 millions de visiteurs uniques qui venaient sur France.tv tous les mois, mm-hmm. Il y a un an.
Vous êtes passé à
27. C'est 6 millions en un an, donc on est très contents. Et puis avec des beaux programmes. Vous en avez cité plusieurs dont on est très fiers de les porter. Donc quand on fait des programmes qu'on aime et qu'en plus ça marche, on finit bien l'année.
Et à quoi va ressembler, est-ce qu'on peut avoir une petite idée de à quoi va ressembler cette nouvelle émission sur l'environnement?
Alors on va pas faire tous les lundis soirs sur France 5, on va pas faire une émission spécifiquement dédiée. On a Sur le front qui marche très bien, qui vient une fois par mois. Et l'idée c'est qu'on n'ait pas une carte blanche, mais que toutes les semaines on ait des manières différentes, des angles différents de traiter de l'écologie. Vous aurez du documentaire, vous aurez des magazines, vous aurez peut-être des fois, on se pose même la question, est-ce que le cinéma peut pas parler d'environnement et d'écologie, mais toujours en demandant, en disant, vous avez la même préoccupation que nous, les médias doivent parler d'environnement, on voit la crise climatique, on a une immense responsabilité, on peut pas rester les bras croisés, on peut pas juste se dire, constater à chaque COP, de dire, bah, la température monte, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, en tant que médias, on veut pas seulement alerter, on veut montrer quelles sont les solutions, où sont les débats, etc. Donc c'est ça l'enjeu de ce lundi soir de France 5.
Et justement, pour avoir un réel impact, on le sait, la production d'une émission hebdomadaire demande c'est un énorme dispositif, ça demande beaucoup d'énergie. Est-ce que vous avez un plan de sobriété à France Télévisions ?
Alors, France Télévisions a un plan de sobriété en tant qu'entreprise. Maintenant, on a un énorme défi devant nous, mais qui est un défi mondial. C'est ce que vous avez indiqué, c'est comment on arrive à produire écolo, à produire de manière plus sobre, à arrêter de se dire qu'on doit toujours consommer plus. C'est des petites choses, hein. Le CNC a fait une étude l'année dernière. Le nombre de piles et de batteries qu'on prend sur un tournage, notamment une fiction. Le nombre de caméras. À chaque fois, il faut une nouvelle caméra. Quand on fait un direct sportif, il faut toujours la plus haute technologie. La télé, elle sait pas être sobre parce qu'on a été éduqué dans l'idée, faut tout sacrifier pour l'antenne. Et aujourd'hui, alors, on le faisait déjà pour les économies budgétaires. Faut le faire aussi sur l'empreinte écologique.
Vous avez une idée du bilan carbone des programmes?
On est en train de le faire compter. On a pris un cabinet exprès pour le faire compter. Et à partir de là, Delphine Ernotte nous a demandé de dire comment est-ce que France Télé va s'inscrire dans la démarche de neutralité carbone, que tous nos programmes, dont tous les genres de programmes, comment ils vont réduire leur impact carbone. Donc j'espère que dans les prochains mois, on pourra annoncer les résultats de cette démarche.
Il y a eu quelques polémiques sur les réseaux sociaux à propos de votre passé dans la politique, notamment avec Cécile Duflot. On peut vous accuser de militantisme, on peut accuser la direction des programmes de France Télé de militantisme. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Bah, deux choses. D'abord, l'obsession de France Télévisions et la mienne, c'est le pluralisme. Absolument. France Télévisions ne donne pas d'opinion et toutes les opinions des Français sont représentées sur nos antennes. C'est dans notre cahier des charges, ça ne changera jamais. Et pour le coup, moi je serai toujours très vigilant, très virulent pour que toutes les opinions soient toujours représentées. Après, vous parlez des mises en cause personnelles. Moi, vous savez, j'ai commencé à me mobiliser sur le climat, j'avais 13 ans, en 2001. Est-ce que je regrette ça ? Bah, 20 ans plus tard, je pense que les faits m'ont plutôt donné raison.
Frédéric ?
Parlons budget un petit peu. Le financement 2023 n'est pas vraiment en hausse. Il y a des raisons de s'inquiéter de ça pour France Télévisions ?
Oui, on est dans un cycle, ça fait maintenant 5 ans, qu'on a fait, France Télévisions a fait 400 millions d'euros d'économies par an. Il y a très peu d'entreprises publiques, il y a même très peu d'entreprises tout court, hein, qui sont soumises à des contractions aussi importantes. Nos effectifs, ils ont réduit de 1500 personnes. On a fait des gains de productivité partout. Et sur le programme national, des chiffres, hein, on est à BFM Business, donc ouais. Vous êtes sérieux. 1,75 milliard en 2017, 921 millions en 2022 et sûrement moins en 2023. Je ne vais pas vous raconter de ça, c'est très dur. Après, c'est très dur parce qu'on veut plus d'ambition,
efforts,
on doit préserver la création, on doit augmenter les audiences. Donc, c'est un exercice difficile. Moi, mon engagement, c'est qu'on tiendra en 2023. En revanche, on a en 2024 l'année des Jeux Olympiques sur laquelle France Télévisions est très investie et on doit absolument réussir à porter, à avoir une offre au niveau... À cette année-là.
Comment vous comptez couvrir les JO 2024 avec justement moins de budget aussi ?
Aujourd'hui, notre ambition, on espère qu'on aura le budget sur l'année 2024, mais notre ambition, c'est de faire ce que la BBC a fait en 2012 au moment des JO de Londres, c'est de réussir à faire monter la mobilisation autour des Jeux Olympiques bien en amont. Et donc c'est dès le premier semestre 2023 qu'on va commencer à faire de la couverture, à mobiliser, à porter les choses. Et donc on espère que France Télévisions va être l'écrin de l'enthousiasme olympique. Notre défi, c'est que Paris 2024, ce soit vraiment une fête dans tout le pays.
L'actualité de la semaine, c'est aussi Salto. Delphine Ernotte, dans une interview au Figaro, a dit que Salto avait un avenir, mais pas avec un actionnariat tel qu'il est aujourd'hui. Stéphane Sidbon-Gomez, pour vous, que va devenir Salto ?
Comme vous le savez, en fait, on est dans la suite de la non-fusion entre TF1 et M6. Il y avait un projet stratégique autour de Salto. D'ailleurs, nous, on était prêts à revendre nos parts à TF1-M6 fusionnés. Et ça devait devenir la grosse offre de streaming et de SVOD du nouvel ensemble TF1-M6. Pas de fusion. Un nouveau président de TF1, Rodolphe Belmer, qui a une vision stratégique aussi pour son entreprise. Donc, on discute entre trois actionnaires pour se dire, voilà, maintenant, on a un succès qui s'appelle Salto, parce que faut que je le redire. Plus de 800 000 abonnés en pure OTT, chez aucun distributeur, c'est un véritable succès. Aujourd'hui, quel avenir on a ? Moi, je redis vraiment, si dans 5 ans, il n'y a pas une plateforme de SVOD française...
Leader,
pas forcément, on sera moins fort que Netflix, mais il faut que les Français aient leur place dans la SVOD. Nous, on est prêts à donner nos contenus, pas à les donner, évidemment, mais à partager nos contenus sur une offre de SVOD, et il ne faut pas laisser ce marché uniquement aux Américains, parce qu'on s'en mordra les doigts dans 5 ou 10 ans.
Comment on pourrait faire alors ?
Aujourd'hui, si on va chercher un actionnaire qui croit dans le projet industriel de Salto, nous on est prêts à s'engager sur sa durabilité, c'est-à-dire sur le fait de laisser nos contenus pendant une certaine période, et notre ambition... Tout le monde a rigolé quand ils ont dit « mais c'est pas un Netflix, c'est un français, c'est pas le petit Salto qui va manger le gros Netflix ». C'est vrai. Mais en attendant, on n'a pas arrêté de grandir parce que les Français, ce qu'ils préfèrent, même en SVOD, c'est leurs émissions, c'est leur fiction française qui battent des records d'audience à la télévision et qu'ils aiment aussi consommer en SVOD.
Pour terminer cette interview, on va passer au questionnaire avec un cas de Julien Casqui.
Eh oui.
Alors, c'est des questions-réponses en rafale. 10 questions, 2 minutes. C'est bon pour vous ?
Vous m'inquiétez.
Ça va bien se passer. Parce qu'on met tous des cas particuliers. On va étudier le cas Sidmon Gomez.
Eh bien, on lance le chrono. C'est parti.
Allez, votre réseau social préféré ?
Mastodon, mais je ne l'ai pas encore essayé.
Mastodon. Le matin, sur quel média vous informez-vous ?
C'est terrible à dire, mais quand je suis arrivé à France Télévisions, on m'avait dit que ce serait le cas. Je dois reconnaître, le premier truc que je lis, c'est Satellifax.
Satellifax, ok.
Mais après, je lis tous les journaux, je lis tous les quotidiens, Le Parisien, Le Figaro, Libération.
Une radio ?
France Inter.
L'événement d'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine ?
Cette semaine, mon Dieu. Je vais dire tic une tac, bêtise. Tic-tac. Le plus retenu mon attention.
Sinon, on passe. Hein.
Je pense que la déclaration de Céline Quatennens hier.
Cyril Hanouna ou Yann Barthès ?
J'aime les deux.
Si vous étiez obligé de choisir.
Anne-Elisabeth Lemoine.
Si vous étiez une émission de télé, ce serait laquelle ?
Si j'étais une émission de télé, j'espère que ça ne
m'arrivera
jamais. Je passe.
Si vous étiez une émission de radio.
Ah si, des trains pas comme les autres.
Si vous étiez une émission de radio.
Si j'étais une émission de radio, je passe.
Boycott de la Coupe du Monde ou pas ?
Non.
Pas boycott ?
Non.
Pour regarder les matchs ?
Oui.
La personnalité qui vous inspire le plus dans les médias ?
La personnalité qui m'inspire le plus dans les médias, comme on est à BFM Business, je vais dire Arthur Dreyfus.
Il sera content. Votre plateforme, c'est le directeur, président France d'Altis. Votre plateforme de streaming préférée, à part Salto ?
Salto. France.tv.
France.tv.
C'est gratuit. Salto, c'est payant. France.tv, c'est gratuit.
De quoi êtes-vous le plus fier dans votre carrière chez France Télévisions ?
Évidemment, quand on fait mon job, c'est d'abord des programmes dont on est fier, mais ce dont moi je suis le plus fier, et je l'ai déjà dit, donc c'est pas nouveau, mais c'est de travailler avec une équipe qui est exceptionnelle. On a beaucoup de talent à France Télévisions. Je suis très fier de travailler avec eux, aux côtés de Delphine Arnault.
Et moi, j'ai une petite question.
Ah mince.
Quelle question on ne vous a pas posée que vous auriez aimé qu'on vous pose aujourd'hui ?
Non, il y a des questions que vous m'avez posées que j'aurais aimé que vous ne me posiez pas. Toutes celles que j'aurais aimé que vous me posiez.
Bon, bah tant mieux, je suis ravie. Merci beaucoup. Sidmon Gomez, vous êtes directeur des antennes et des programmes à France Télévisions. C'est parti pour le journal avec un J, cette fois de Julien Casqui.
BFM Business, Hebdo.com, le JT de la com.
Julien, cette semaine, forcément, la Coupe du Monde cartonne à la télé.
Eh oui, 12,5 millions de téléspectateurs sur TF1 mardi soir pour le match de la France contre l'Australie. Les Français ne boycottent pas la Coupe du Monde et les annonceurs sont au rendez-vous. Le spot de pub, Rebecca, s'est vendu pour 245 000 euros les 30 secondes et ses prix pourraient aller crescendo si la France va jusqu'en finale. Dans ce cas de figure, le spot de pub de 30 secondes sera de 330 000 euros, des prix supérieurs au mondial de 2018.
Twitter, lui, en revanche, voit ses annonceurs déserter sa plateforme, là.
Selon nos confrères du Washington Post, un tiers des annonceurs de Twitter auraient déserté la plateforme en revenus publicitaires, en recettes publicitaires sur Twitter depuis 2 semaines. Parmi eux, on peut citer le groupe pharmaceutique Merck, Kellogg's, Verizon ou encore la marque de bière Samuel Adams. Ces marques font partie des plus gros annonceurs de Twitter.
Et on a appris d'ailleurs cette semaine le départ de Damien Viel, directeur général de Twitter France. La semaine dernière, on a assisté à Paris au forum Elle Active.
Oui, c'est un événement qui a lieu chaque année depuis 10 ans. Il est organisé par le magazine Elle. Il est dédié à l'emploi, au programme des conférences, des séances de psy, de coaching pour gagner en confiance en soi et entreprendre au travail. Alors pourquoi un tel événement ? On a posé la question à Florence Besson, rédactrice en chef événement au magazine Elle.
Ça s'est très bien passé, on est extrêmement content d'être dans ce nouveau lieu, l'espace Oscar Niemeyer, qui est vraiment emblématique et magnifique. On a eu près d'un millier de personnes déjà qui sont venues, avec un grand entretien avec Anne-Elisabeth Lemoine, des conférences autour de l'ambition, mais aussi de la grande émission, qu'est-ce qu'on attend du travail, et puis beaucoup de parcours pratiques. si vous voulez entreprendre, par exemple, vous avez des conférences autour du storytelling, voilà, des choses très, très pratiques. Un espace réseau aussi, où vous pouviez apprendre à parler d'argent, à vous faire un réseau, à défendre vos droits. Donc, on est très contents. Alors, cet événement, il ne pourrait pas exister sans nos partenaires comme BFM Business, justement. Merci beaucoup d'être avec nous. Et donc, on a L'Oréal aussi, L'Oréal Paris, qui est notre partenaire principal. Et grâce à eux, ils font beaucoup de masterclass aussi, d'interventions. Et du coup, ça crée beaucoup d'échanges avec nos lectrices. Et grâce à eux, on peut aider 2000 personnes aujourd'hui, les inspirer. C'est aussi à revoir sur notre site active.l.fr. Et du coup, je les remercie beaucoup. Bah, pour nous, c'est toujours magique de rencontrer les lectrices en vrai et d'avoir leur retour. Et tout le monde a l'air très content et nous dit merci. Je vous avoue que c'est assez galvanisant. Et on a l'impression d'être... on sait qu'on est utile, mais là, on a vraiment l'impression de l'être encore plus. Donc, c'est la même différence qu'entre le cinéma et le théâtre. J'imagine, on est très content d'avoir le retour directement.
Et le magazine multiplie ce genre d'événements autour d'autres thématiques comme la cuisine ou le bien-être.
Cette semaine, le groupe média DC Compagnie rachète le site Les Éclaireuses.
Oui, Les Éclaireuses, vous savez, c'est ce site en ligne et sur les réseaux sociaux qui est dédié aux femmes. Il revendique plus de 7 millions d'abonnés sur tous ces réseaux sociaux. Et DC Compagnie donc rachète Les Éclaireuses. DC Compagnie, ça a été fondé par Geoffrey Larocca qui a fondé l'agence la tech Tids et qui a racheté il y a quelques semaines le Gorafi. Le montant de son rachat n'a pas été communiqué, mais avec cette acquisition, DC Compagnie souhaite peser un peu plus dans l'univers des médias. Il vise les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.
Et puis on termine avec notre campagne coup de cœur, notre campagne chouchou de la semaine, et c'est celle de la SNCF.
Ouais, l'ensemble d'Hebdo.com est d'accord sur ce point. C'est la campagne de la semaine de la SNCF autour de l'écologie toujours en train. Voilà comment elle s'appelle. Dans un spot d'une minute, on voit un petit garçon de l'âge de 10 ans environ sous forme de slam qui rappelle que les cheminots sont toujours en train de trouver des nouvelles actions pour protéger l'environnement. Éco-conduite, installation de panneaux solaires, tri des déchets. Il demande aux téléspectateurs quel écolo tu es. On écoute.
Quel écolo tu es ? Toujours en train de promouvoir l'énergie solaire ? En train de manger le bio de ton potager ? De semer pour rendre le pays plus vert ? Quel écolo tu es ? En train d'attendre ta nouvelle poubelle pour te mettre à trier ? Ou en train de pédaler pour que seul ta dynamo t'éclaire ? Quel écolo tu es ? Toujours en train de... bah ouais, toujours en train. Bleu, blanc, rouge, mais tous ensemble plus vert.
Ah, vous êtes quel écolo, vous, Rebecca ? Ce film a été imaginé par Publicis et sera déployé en télé, en affichage dans les grandes villes de France, en podcast et sur TikTok.
Moi, je suis très écolo, Julien, pour vous répondre. Frédéric, pourquoi on a choisi cette campagne chouchou
Parce que c'est une suite, en fait. Vous vous souvenez du slam hexagonal de Gaël Faye. C'était un très, très, très beau film. Et c'est pas toujours facile de réussir une suite. Et je trouve qu'elle est particulièrement adaptée. Donc, bravo.
Moi, je suis d'accord. Eh ben, merci beaucoup, Julien, pour le journal. C'est parti pour le Focus.com.
BFM Business, Hebdo.com, le Focus.com.
Avez-vous été convaincu par la communication des marques dans le cadre du Black Friday ? C'est la question Hebdo.com de la semaine. Arisat Interactive a réalisé un sondage pour BFM Business et pour Tilder. Et ce sera le point de départ de notre débat du jour avec vous, Charlotte Eusen. Bonjour, vous êtes associée chez Tilder.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Fabrice Pelosi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur associé chez Epoca, mais bon, on vous connaît. Le sondage révèle que oui, 57% des Français, un peu plus de la moitié des Français, se déclarent convaincus par la communication des marques. Charlotte, est-ce que ce résultat vous surprend ?
D'abord, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le premier Black Friday de ce qu'on pourrait qualifier de double monde d'après. Le monde d'après la canicule de cet été, qui avait évidemment fait énormément réagir le grand public sur les enjeux environnementaux et climatiques, et le monde d'après guerre en Ukraine, qui a accentué les tensions économiques avec cette dynamique inflationniste qui touche maintenant l'ensemble des biens de consommation. Donc ce Black Friday, il prend place dans une période nouvelle et sensible, dans laquelle les marques ont dû complètement se réadapter pour en fait répondre à deux objectifs, à la fois assurer une vraie dynamique commerciale, hein, ça reste l'objectif de ce grand moment de consommation, mais aussi avoir un véritable positionnement sociétal, environnemental, engagé pour que les gens puissent continuer à consommer en étant rassurés sur ce point.
Fabrice ?
Oui, effectivement, il faut avoir une communication sur le fil du rasoir, surtout cette année avec l'inflation, où ça change beaucoup la donne, puisque les marques, on le voit, la Fevad a publié des chiffres sur le premier semestre, on a eu une baisse de la consommation. Chez Cdiscount, qui est le deuxième français, on a aussi une baisse des visites. Donc, ils doivent cette année vraiment séduire le consommateur et vendre. Du côté du consommateur, bah, il y a l'inflation. Et donc, oui, on a envie de ne pas surconsommer, mais dans le même temps, on est très satisfait d'avoir des réductions. Donc, il faut trouver une manière de communiquer responsable. Et d'ailleurs, il y a une chose qui me paraît assez intéressante. Amazon est toujours le symbole de la surconsommation et le symbole du Black Friday. Donc, il y a toujours le Black Friday chez Amazon. Mais il y a quelques jours, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a communiqué sur son intention de donner sa fortune. Et il a commencé à communiquer
sur... Une partie de sa fortune.
C'est pas tout. Alors, c'est une grosse partie quand même.
C'est une grosse partie.
Quelques milliards, bon, c'est pas énorme, mais il a commencé à investir pour le responsable, et donc c'est une piste intéressante. C'est d'un côté communiquer sur le produit de manière totalement commerciale pour faire des ventes, mm-hmm. et de l'autre côté avoir une communication corporate portée par un dirigeant sur les engagements de l'entreprise et sur ses valeurs. Et là, ça fonctionne plutôt très bien.
Il y a un côté un peu schizophrène, non, dans cette histoire, mm-hmm. parce que. Il me semble d'ailleurs que cette année, on entend un peu moins de critiques sur le Black Friday. Il y avait ces dernières années, au contraire, des gens qui... non seulement des boycotts, mais des mouvements assez organisés autour de « on ne fera pas ».
Puis des contre-mouvements avec le Green Friday.
Absolument. Et là, cette année, ça a l'air plus calme.
Oui.
Alors, est-ce que c'est à cause justement de cette poussée inflationniste qui fait oui. qu'au fond, il y a peut-être plus de réalisme qui est « on va profiter simplement des soldes » ou
Je pense. On dit que depuis, ça fait 12 ans que le Black Friday est arrivé en France. C'est le symbole de la surconsommation. Je pense que cette année, ça va être le symbole de la consommation tout court. Donc il va falloir trouver un moyen pour les marques de continuer à communiquer. Il y a la Camif qui a fait son événement et qui, depuis le début du Black Friday, depuis 2017, il me semble, communique sur le fait qu'ils ne font pas de réduction. Voilà. Donc, alors, c'est un peu, alors je dis, c'est pas du tout hypocrite, hein, c'est totalement en accord avec les valeurs. Mmh. Toujours est-il que c'est de la communication qui a pour objectif de faire parler de la marque pour faire des ventes. Mmh. Donc, c'est très malin. Il y a aussi Guillaume Gibault du Slip français. Alors, juste avant de venir, je suis allé voir sur son site. Alors, ils sont contre la surconsommation, toutes ces communications qui poussent à consommer. Toujours est-il que, sur la homepage, il vend les chaussons et donc les pantoufles. On achète une paire, c'est moins 10%, 2 moins 20, 3 moins 30, 4 moins 40. Donc on voit qu'il y a quand même un intérêt. On parle pas de Black Friday, mais toujours est-il que plus on consomme, moins on paye. Donc
il y a cédé aux tentations.
Voilà.
Charlotte, pour entrer un petit peu plus dans le détail, on voit donc bien que malgré les problématiques écologiques, le contexte inflationniste prend le pas, mais surtout auprès des jeunes, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre. Comment vous pouvez expliquer ça ?
C'est vrai que tout à fait, le chiffre intéressant touchait en effet les 18-24 ans qui sont les plus convaincus parmi les différentes tranches d'âge qui ont été testées par le Black Friday. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, convaincus par quoi ? Peut-être convaincus justement par les communications des marques qui, aujourd'hui, communique à la fois sur le Black Friday, mais aussi sur son pendant sociétal, engagé, environnemental, ce qui expliquerait que les jeunes, finalement,
soient rassurés
et plus partants pour utiliser ce Black Friday comme un moment de consommation, tout en ayant cette dimension sociétale assez importante. En fait, les marques doivent gérer ces deux aspects extrêmement contradictoires. Et on voit, en effet, dans les exemples qu'on a donnés, que ce soit la marque Jules, par exemple, exemple, qui utilise cette année un Black Friday, donc on ramène ses vêtements plutôt qu'en acheter des nouveaux. Je pense à Etam qui a beaucoup communiqué sur son Black Friday solidaire avec une partie des achats qui sont redonnés à des associations. Donc chacune trouve finalement un positionnement qui permet de concilier achat et responsabilité. Et c'est sans doute ce qui convainc les jeunes cette année.
Fabrice, vous êtes d'accord ?
Oui, tout à fait.
Les jeunes sont séduits par la communication des marques, la transparence.
Et puis aussi, quand on est jeune, on est moins à l'aise financièrement, donc on est plus touché par une communication qui va être simplement commerciale. Et aussi, je pense qu'il y a un écart entre les convictions qu'on va déclarer dans ce sondage et comment on dépense avec son portefeuille. Un autre écart qu'on a vu récemment, et on le voyait dans le journal de Julien, c'est entre les convictions sur la Coupe du Monde de football. Bon, on n'a pas envie forcément de regarder peut-être pour les convictions. Toujours est-il que TF1 vient de battre son record annuel sur les audiences pour le premier match de l'équipe de France. Donc, parfois, on voit un écart et quand on arrive vraiment dans l'action, ça change.
Mais au fond, le Black Friday, est-ce que c'est pas presque plus une affaire de distributeurs, en l'occurrence, vous citiez à l'instant Amazon. Est-ce que c'est pas là que le nœud se fait ? C'est-à-dire que les marques font des communications qui peuvent être effectivement assez contrebalancées entre on fait des prix, mais on essaye de d'être raisonnable. Mais d'un autre côté, quand on va sur les sites distributeurs, là, pour le coup, on est uniquement sur des moins 60% ou moins 80%. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu pas une hypocrisie, mais un décalage.
Oui. Ah oui, mais on en revient à ce qu'on disait, c'est cette ligne de crête qu'il faut trouver aussi parce que il n'y a pas d'hypocrisie du tout.
En fait, c'est-à-dire que quand on parle, les tentations qui sont trop fortes, qui prennent le pas.
Voilà, mais
tentation de regarder la Coupe du Monde.
Oui, mais on parlait du slip français avec Guillaume Gibault. Lui, il investit pour relocaliser en France. Quand on achète des pantoufles chez lui, on fait travailler le cœur de l'industrie française. Donc ça a du sens. Il met derrière du sens dans la consommation des gens. C'est peut-être ça cette année qu'il va falloir trouver.
Et qui convainc 57% des Français selon le sondage.
J'allais rappeler le résultat du sondage. Merci Fabrice Pelosi, vous êtes directeur associé chez Epoca. Merci Charlotte Eusen, vous êtes associé chez Tilder. Et merci Frédéric Roy, mon acolyte de chaque semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Ça fait beaucoup de merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit sur BFM Business et aussi sur nos plateformes et en replay et en podcast. Très bon week-end.